Bon, ok, je remets bras à zéro.
La SNCF a le plaisir de vous annoncer que suite à un mouvement social, vous ne pourrez pas assister à vos repas de famille.
Ah, le rêve.
On parle encore du rêve?
Mais non, on parle encore de bébé.
Ah.
Ben oui, c'est bras zéro bébé 2. Parce qu'on peut pas tout le temps surfer sur le fil de l'actu et que ça fait un peu longtemps qu'on incube cette émission.
Et heureusement, on peut écouter quand même La Colère et ses raisons sur Canal Sud demain de 19h à 20h et sur La Centrale de 10h à 20h sur A Centrale, A-C-E-N-T-R-A-L-E point, P-O-I-N-T, non, que le point, org, O-R-G.
Ouais, enfin bon, mais aussi parce que l'actualité, pour pas mal d'entre nous, c'est toujours les bibis et les réveils nocturnes.
Alors, on va vous expliquer pourquoi et comment on choisit de faire famille ou pas.
D'avoir des enfants ou pas.
De les faire seuls ou à plusieurs.
On va chercher aussi quelques définitions et se mettre un peu au jus des nouvelles lois qui encadrent ces décisions.
Bref, ce soir, une émission familiale pour débrancher un peu des retraites et des gaz lacrymo.
Bonne écoute.
Pour toi, c'est quoi la famille?
Comment est-ce que tu fais famille ou pas?
Est-ce que pour toi, la famille, c'est lié au fait d'avoir des enfants?
6 personnes.
3 micros.
74 minutes d'enregistrement.
Enfermées jusqu'à 50 minutes dans 15 mètres carrés.
Des histoires singulières.
Des parcours atypiques.
Des réponses complexes.
Oui, bon, bah, ça va, c'est l'équipe de Bras Zéro en mode introspection.
Ma mère, tout particulièrement, était très attachée au fait de faire famille et donc de faire des rassemblements familiaux autour du grand-père, de Noël, ce genre de trucs. Du coup, quand on me dit famille, je pense surtout à ça. Mais par contre, ça ne me parle pas pour ce que moi, je vis dans mon quotidien. Et par exemple, le fait d'avoir eu un enfant, là, je... J'ai du mal à me dire maintenant, donc cet enfant a 5 mois. J'ai du mal à me dire là, on est une famille quoi.
On a vécu dans un truc assez chouette et avec des moyens et aussi un truc assez fort autour de faire famille. Donc par exemple, moi je vais voir ma famille parce que je trouve aussi que c'est des gens agréables avec qui j'aime bien passer du temps. T'as aussi de la chance à un moment donné quand la famille que t'as à la base et que t'as pas choisi finalement sont des gens plutôt agréables avec qui tu t'entends bien, avec qui t'as des trucs à dire, à échanger, avec qui c'est pas la grosse galère et tout ça.
Pendant longtemps, il y avait pour moi la famille, j'avais distingué la famille qu'on choisit pas et la famille qu'on choisit. Et la famille qu'on choisit, c'était mes potes, avec qui je passais le plus clair de mon temps, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec le temps, je fais un distinguo de... Les potes, c'est les potes, c'est pas une famille, c'est autre chose. Et en effet, j'ai l'impression que la famille se resserre autour d'un lien de parentalité, ou en tout cas d'élever des enfants sur du très long terme et de créer du lien comme ça, quoi.
Il y a ce côté là de la famille, qui est les gens très proches, ou en tout cas avec qui on a traversé des trucs durs, qui fait qu'il y a un lien qui est créé et qui est similaire à la famille, on va dire, par le sang, qui on a, avec qui moi je m'entends bien, j'ai la chance. Et tu peux ne pas te voir pendant très longtemps. Ce que tu as vécu est assez fort, en tout cas pour le moment, pour qu'il y ait de la confiance et du respect, quoi.
Et du coup, la famille, il y a d'abord ce truc un peu négatif pour moi, et en même temps, genre incontournable, faut faire avec, quoi. Et du coup, qui est ni positif ni négatif, un truc qui est posé, qui est là.
Il y a des amitiés comme ça que je différencie. Et je sais pas pourquoi ça se passe comme ça, c'est pas forcément tu vois, mais j'ai des amis, j'ai l'impression que c'est il y a tout de suite ce truc famille, et peut-être qu'à l'intérieur, ce que j'y vois moi, mais parce que j'ai aussi une vision positive de la famille dans mon expérience, c'est des gens un peu qui t'aiment peu importe ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire des gens qui vont pas te laisser tomber, que t'as beau vivre des trucs hyper durs, hyper machin de trucs, eh ben du coup, ou t'embrouiller avec eux, leur dire le pire des trucs. Enfin, tu sais, ces gens un peu qui t'aiment inconditionnellement et sur qui vraiment tu peux compter et tout ça.
Mais sinon, la famille, pour moi, c'est attaché à un truc qui pendant longtemps était hyper simple, parce que je pense que j'ai été préservé de pas mal de choses, et qu'en grandissant, tu te rends compte en fait qu'il y a des milliards de nœuds et des milliards de non-dits, et donc j'ai l'impression que c'est beaucoup de non-dits, en fait, beaucoup de façades. Enfin, il faut que ça se passe bien, il faut que être une famille heureuse, aimante, tout ça, mais en fait, tu te rends compte que derrière, quand tu creuses, ça peut pas forcément bien se passer tout le temps, et qu'on casse énormément de choses.
Je pense toujours que c'est pas forcément une référence positive, famille, quoi, pour tout ce que t'as dit, en fait, les non-dits, c'est l'endroit où les pires choses arrivent, en fait, pour de vrai, c'est beaucoup plus risqué, les familles, que la rue... Ça passe beaucoup plus de trucs dans les familles horribles, dégueulasses, qu'ailleurs, quoi.
Un truc de génération, ou aussi un truc peut-être à des moments de classe, qui peut être aussi culturel, ou qui peut être aussi genré, c'est quoi les choix que tu vas avoir de te séparer ou pas de ta famille, de t'en occuper ou pas, ou de donner à d'autres, je sais pas, quand les gens ils vieillissent dans ta famille, ou quand il y a des gens qui sont malades, ou quand il y a des gens... Enfin voilà, tu vois, c'est comment aussi... j'ai l'impression, selon où tu te situes, y a des fois où t'as pas le choix.
Il peut y avoir des ruptures et c'est définitif. Ce qui peut arriver dans les familles, mais en fait, un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, quoi qu'il arrive, ça reste un oncle, une tante, tu peux ne pas les voir, mais tu ne les vois pas justement.
Je pense que les premières fois où il y a quelqu'un de ma famille qui est décédé, où j'ai pas eu de tristesse, ça marquait une limite, et en fait c'était pas que prioritaire que ça soit la famille, et du coup tu dois être triste parce que c'est la famille, quoi.
J'ai un oncle et tante par exemple avec qui je m'entendrais pas du tout aujourd'hui, mais de fait comme j'ai passé beaucoup de mois chez eux pendant toute mon enfance, etc., je les aime quand même. Et je crois pas que ce soit parce que c'est mon oncle et ma tante, c'est pas une histoire de lien de sang, mais c'est vraiment une histoire de vécu. Et que c'est lié aussi, du coup, je pense pas mal à l'enfance.
Parce que en même temps, tu te dis, la vie, elle t'amène à d'autres choses, mais t'essaies d'entretenir. Mais là, t'as beaucoup plus de choses à te dire parce que t'es dans le truc choisi. Mais aussi qu'à un moment, en fait, t'as choisi à un moment. Et puis après, tu fais avec ce choix qui n'en est plus un parce que tu l'as fait à un moment.
Les enfants, allez, allez, allez! Il y a votre oncle qui arrive.
Oh non, encore lui.
C'est l'histoire de ne pas avoir d'enfant. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, je ne voulais pas d'enfant. Et ça a duré jusqu'à une trentaine d'années. Et là où j'ai... Donc je suis tombée enceinte quand même une fois, et j'ai pris le temps quand même. Je me suis éloignée de la personne avec qui j'avais fabriqué cet embryon, pour réfléchir, et parce que je considérais que la décision n'appartenait qu'à moi. Je lui ai pas du tout demandé son avis. Et j'ai décidé d'avorter. Ça s'est fait de manière très sereine et surtout très bien parce que c'était au Québec. Et les gens là-bas font ça hyper bien. Vraiment, tout est fait pour que tu ne souffres pas, que tu sois bien accueilli. Ce qui est assez différent de ce que je vois autour de moi aujourd'hui pour les femmes qui veulent avorter. C'est quand même... Toujours tu souffres, alors que moi, j'ai pas du tout souffert. Bon, bref. Donc, c'était très clair. Ensuite, j'ai eu un compagnon un peu sérieux, avec qui j'avais envie de vieillir. Et donc, on était, pour moi, on était tous les deux d'accord qu'on n'aurait pas d'enfants. C'était trop la galère, ça ne nous intéressait pas. Et puis, ce monde de merde et tout ça. Et puis, un jour, je passe devant une pharmacie avec lui et je lui dis, tu m'attends là, je vais chercher ma pilule du lendemain. Et là, il me dit, ah bon, mais d'abord, tu pourrais m'en parler. Et puis... Ben moi, je ne serais pas tellement pour un avortement. Je dis, mais tu veux pas d'enfant? Il me dit, oh, mais j'ai jamais dit ça. Ah bon? De ce moment-là, ça m'a fait un peu vaciller. Et pendant une période relativement courte, je dirais que ça a duré une petite année, quelques mois, j'ai eu envie, je ne sais pas si on peut dire que j'ai eu envie d'avoir un enfant, j'ai peut-être eu envie d'être enceinte, ou je ne sais pas trop. Toujours est-il que pendant, voilà, c'est... Une petite année, j'ai attendu de tomber enceinte. C'est pas arrivé. Et j'ai eu une espèce d'expérience un peu mystique un jour à la campagne. J'ai senti que je pouvais accepter en moi ou pas d'avoir un enfant, de tomber enceinte. Et tout en moi a crié, non, pas ça. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui où j'ai 59 ans. Et j'ai pas de regrets, mais en plus, j'ai pas de regrets d'avoir un enfant avec cet homme-là dont je suis séparée aujourd'hui. Je me dis, bon, bah, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis, ça me manque pas. Il se trouve que je suis entourée de gens qui pourraient être mes enfants, parce que je vis en collectif avec des gens qui ont une quarantaine d'années, une petite quarantaine. Et du coup, je sais pas comment dire, je suis en contact avec des gens plus jeunes que moi. Et du coup, peut-être qu'il y a quelque chose qui est rempli là, cet endroit, et qui fait que du coup, ça me manque pas. Et par ailleurs, en plus, je vis avec des gens qui ont un enfant. Et du coup, je découvre un peu ce que c'est que de vivre avec un enfant. Et je trouve ça plutôt chouette. Et en même temps, quand je vois ça, je me dis, oh là là, c'est trop de travail. Quand des copines tombaient enceintes, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais très peu entourée de gens qui avaient des enfants quand même. Et quand des copines tombaient enceintes, je me disais, oh là là, ça va plus être la même, elle va changer, je vais la perdre et tout. J'avais l'impression que les gens qui avaient des enfants, ils devenaient tout de suite, ils devenaient conventionnels et on les perdait, quoi. Et ça, c'était faux. Mes copines sont restées ce qu'elles étaient et c'est super. Je cherche aussi pourquoi j'ai pas voulu d'enfants, parce que j'ai été élevée par une mère célibataire qui en a beaucoup chié quand même pour m'élever et moi aussi parce qu'elle pouvait pas me, comment dire, je l'ai connue, j'avais 5 ans. Dans ma mémoire, en tout cas. J'étais élevée par ma grand-mère jusqu'à mes 5 ans. Et donc, le lien avec ma mère, il a été difficile à créer, puisque c'était une étrangère pour moi, cette femme. Ça allait rester longtemps. Et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas eu envie d'avoir d'enfant. C'est que c'était... Le rapport avec ma mère, il était très difficile. Et j'avais peur, en ayant un enfant, que cet enfant me déteste, comme moi, j'ai eu détesté ma mère pendant une époque. Et je me suis dit, je ne pourrais pas supporter quelqu'un me déteste autant, d'une part. Et d'autre part, je voulais élever un enfant avec un père. Je me disais, ben, je ne vais pas faire pareil que ma mère. Et je n'ai pas trouvé le père. Enfin, si, à un moment, voilà, j'ai cru que c'était possible. Mais je n'avais pas beaucoup confiance dans les hommes quand même, vu toute l'histoire familiale qui était très compliquée vis-à-vis des hommes. Je pense qu'aussi, ayant été élevée beaucoup par ma grand-mère qui me disait « méfie-toi des hommes, c'est tous des salauds », je ne pouvais pas trop imaginer de trouver un père fiable pour cet enfant, quoi. Dans ma famille, ma mère ne m'a jamais poussée à avoir d'enfants, ma grand-mère non plus. Enfin, je pense que ce qu'elles m'ont transmis de la famille, mon grand-père c'était quand même le tortionnaire de sa femme et de ses filles. Du coup, ça fait pas très envie. Enfin, tout ce que j'avais comme image transmise par les femmes qui m'ont élevée, c'était surtout « pars loin, ne te retourne pas ». Du coup, je pense que ça a été, en dehors du fait que je me disais « dans ce monde de merde, c'est quand même compliqué de mettre au monde des enfants », à partir du moment, et oui, À partir du moment où j'ai décidé de vivre, parce que j'étais en souffrance étant jeune, et il y a eu un âge, je ne sais plus, peut-être vers 30 ans, où je me suis dit, ok, je ne vais pas me suicider. Finalement, j'assume cette vie, voilà. Elle est bonne pour moi. Je me suis dit, à partir de là, en fait, je peux mettre au monde un enfant, puisque je considère que la vie vaut d'être vécue, malgré ses difficultés. Et donc ça a été peut-être un tournant aussi, qui fait qu'à un moment, je me suis dit, oui, ok, je pourrais... En tout cas, à un moment, le contrat que j'ai fait avec mon compagnon, à partir de cette histoire de pharmacie et de pilule du lendemain, je me suis dit, oui, bon, ben, si je tombe enceinte, ok, je le jarte pas, quoi, je gicle pas. Donc, ce n'était pas non plus un désir très intense, quoi. Je pense que j'ai attendu quelques mois, j'avais mes règles, bon, mais je n'étais pas ni obsédée, ni catastrophée de ne pas tomber enceinte, quoi. Ce n'était pas très fort. Il y a quand même cette question qui m'a traversée, mais c'est pareil, vite fait, en me disant, ah oui, mais quand je serai vieille, qui est-ce qui va s'occuper de moi? Parce qu'en général, c'est quand même tes enfants qui veillent un peu au grain. Et puis, comme j'ai quand même beaucoup mené ma vie au coup par coup et avec des visions assez à court terme, j'ai pas beaucoup fait de projets à long terme. En plus, je suis myope, donc ça correspond bien. Je ne vois pas loin. Je me suis dit, bon, ben, on verra bien. Comme j'ai toujours fait, je me suis toujours dit, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Donc voilà. Et après, une des copines avec qui je vis donc, était tombée enceinte. Et dans ma tête, je me disais, oh, c'est génial, je vais être grand-mère. Je vais enfin réussir à être grand-mère sans être maman. Puisqu'en fait, je pense que j'ai eu une bonne relation très affective avec ma grand-mère. Donc, le personnage dans lequel je pouvais me projeter, c'était ça. Être grand-mère, c'est super. Et avoir une grand-mère, c'est super. Et du coup, quand cette copine est tombée enceinte, j'ai surinvesti cet enfant à venir, qui finalement n'est pas venu. Après coup, je me suis dit, il y avait quelque chose de disproportionné, qui n'avait rien à voir avec cette copine, qui m'a certainement pas demandé ça. Et donc, quelque part, cet enfant n'est pas venu. C'est un autre enfant qui est venu plus tard. Et je pense que ma relation avec cet enfant est peut-être moins névrotique, plus distancée. Voilà, c'est l'enfant de ses parents. Et c'est ma petite, je sais pas quoi, c'est pas une petite sœur, mais c'est une petite copine. Et je m'attends, je me dis, en fait, cet enfant partira. Un jour, je serai séparée de cet enfant. Donc, j'investis le rapport, mais en ayant toujours à l'esprit qu'il est provisoire. Ce qui n'est pas le cas, je pense, quand on noue des relations familiales de parenté, quoi.
Quelle envie de chante, c'est que la terre est plus ronde. Quand elle ne sera plus qu'un immense charnier, elle mange les corps comme on se plie à Dieu. Quand dehors ça se routine, moi je le vends gros de veau. Prêtez de mourir ou faites tout brûler. Laissez s'envoler, moi je ne peux plus de veau. Quand je vois la Marie, ça perd non de l'Aloès. Il n'arrête pas, mais ça me tire le cœur. Ça gonfle mon corps, ça n'arrête pas. Un grand coup de pioche, les yeux grands ouverts. Pas des belles œillères, mais ça n'arrête pas. Y a eu les Prévert, les Rimbaud, les Baudelaire.
Y a la misère, les impôts et la guerre.
Y a eu la lumière, la peinture et la bière.
Y a les prières, les tortures, les cimetières.
Y a eu l'écriture, mon tonton et la musique.
Y a la dictature, les moutons et le fric.
Y a eu les femmes, les chansons et les droits.
Et y a les hommes, des profs, des morts.
Y a eu des putains, des bateaux et des crimes.
Y a des souverains, des pourcents et des nés.
Mais ça n'arrête pas, mais ça me tire le cœur. Après ce soir, y'a trop, y'a trop payé. Quand je vois la Marise, la Fernande, l'Aloès, il n'arrête pas, mais ça me tire le cœur. Ça gonfle mon corps, ça n'arrête pas. Allez les enfants, tuez vos parents. Allez les enfants.
Allez les enfants, tuez vos parents.
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 Allez les enfants.
Les enfants, c'est tonton Gérard qui arrive.
Oh non. Alors c'est quoi un enfant? Alors les enfants, en fait, c'est comme les légumes. On pense tous savoir ce que c'est, et dès qu'il faut définir, on s'embrouille. Alors la tomate, fruit ou légume? La courgette, la patate, bon. En même temps, finalement, comme pour les légumes, on s'en fout un peu de connaître parfaitement la définition. Et pourtant. Soit l'enfant est un ensemble de manques. Il n'a pas l'âge, il n'a pas la taille. Il n'a pas les droits, il n'a pas les devoirs, il n'a pas les capacités, il n'a pas les autorisations, et il n'a pas tout un tas de choses. Soit à l'inverse, c'est un ensemble de possibilités. Il a la vie devant soi, il construit son avenir, il a le temps, il a de la chance, de l'insouciance, etc., etc. Bon, en gros, l'enfant, c'est pas un adulte. Étymologiquement, le terme enfant vient du latin infans, qui signifie « celui qui ne parle pas », ou qui ferme bien sa bouche, ou qui parle mais qu'on n'entend pas. En même temps, là, ça commence à faire quand même pas mal de monde, au final. Alors, chez les Romains, ce terme désignait l'enfant dès sa naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé définit l'enfance comme la période de la vie humaine allant de la naissance à 18 ans. Bon, ok. En fait, le législatif, comme d'hab, c'est la reine de l'arbitraire, la nature, elle, ne ment pas. Le biologique. Un enfant, c'est le produit d'un rapport sexuel entre un homme et une femme. Tous les rapports sexuels ne donnent pas ce résultat, bien heureusement, et tous les enfants ne sont pas issus d'un rapport sexuel entre un homme et une femme. Quoi qu'en pensent les réactionnaires de tout poil. De source sûre, il faut un ovule et un spermatozoïde. Alors pendant longtemps, omnibulé par l'idéologie de la toute-puissance masculine, on pensait que c'était le spermatozoïde qui partait à l'assaut de l'ovule et, forçant sa défense, fécondait l'œuf pour faire le premier acte du développement du petit humain. Eh ben non, c'est bien l'ovule qui ferait une sélection du spermatozoïde et laisserait passer celui qui s'accorderait le mieux au programme génétique. Mais même là, en fait, il en faut un peu plus pour que les divisions de cellules se passent bien et que quelques temps plus tard sorte à la lumière un animal humain. On sait que dans ces étapes, il faut un utérus. On sait aussi que c'est pas de tout repos. Les interruptions ne sont pas rares. Et déjà là commence la dimension non biologique. Il y a parfois des attentes, un projet, parfois pas. Mais il y a toujours un rapport aux autres. Il est convenu de ne rien dire avant le troisième mois. On ne sait jamais. Et si le développement est contrarié, s'il se passe mal, fausse couche, interruption médicale de grossesse, l'annonce peut être une vraie difficulté. On en parle peu, on doit s'en remettre rapidement et on ne doit pas en parler. Déjà, le produit biologique se charge de quelque chose de plus, que ce soit de la part de sa génitrice, de ses géniteurs, des proches, mais aussi de l'ensemble de la société. Et nous voilà de retour au point de départ. L'enfant est bien à l'entrecroisement d'un moment biologique de développement du corps, des aptitudes physiques et intellectuelles et d'une certaine place attribuée par la société qui change selon la latitude, la longitude, la période historique, la classe sociale, etc.
Ouais, non, mais là, t'as pas répondu à la question.
Bah, un peu, non?
Ah bah non.
Bah, un peu.
Non, non.
Les enfants, mamie est arrivée.
Oh non, pas elle.
Braseur bébé, 2. On choisit pas sa famille, on choisit son émission de radio.
Canal Sud, 92.2.
Oui, allô?
Ouais, c'est moi, maman.
Oui.
Ça va?
Oui, ça va, oui.
Oui.
Alors attends, je m'installe confortablement. Qu'est-ce que je veux dire? Je peux te tutoyer comme d'habitude?
Mais oui, oui.
Je voulais savoir.
Oui. Ça y est, t'es installé?
Oui, je suis installé, je suis par terre, là, comme d'habitude.
Ok.
Je suis encore assez jeune, hein.
Bah oui, oui, je sais, ouais.
Alors la question, c'est...
T'as fait un bébé toute seule, comme on disait dans les années 80.
Oui.
C'est venu de quoi et ça représente quoi pour toi?
Alors, je vivais seule, en fait, à ce moment-là. J'étais dans l'optique de travailler, de ne pas avoir d'enfant. Et je me suis occupée de ma petite filleule qui avait un an, et j'ai changé d'idée. Et à ce moment-là, comme je vivais seule, j'ai décidé d'avoir un enfant en continuant de vivre seule. Et c'est le fait de m'être occupée de ma filleule qui avait un an qui m'a fait changer d'idée, que je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de ça dans ma vie.
Comment tu t'es débrouillée du coup, parce que tu vivais seule?
Ah bah, une fois que j'ai pris la décision, ça a été très facile. Hein. Je l'ai eu avec la personne avec qui je m'étais séparée il y a 3 ans plus tôt.
Papa, du coup?
Oui, et j'ai aucun regret, parce que je suis contente qu'il soit ton père, en l'occurrence. Et à partir de là, je suis tombée enceinte relativement vite. Et puis les choses se sont... je crois que quand les choses sont décidées dans la tête, les contraintes matérielles sont moins contraignantes, on va dire. Mmh. Quand tu es née, je connaissais de ton père depuis 10 ans. Mmh. Donc je trouve que 10 ans, c'est connaître... très bien le père, alors que quand on se marie, qu'on a un enfant, quand on est enceinte à la limite 6 mois plus tard, c'est quand même le grand inconnu, entre parenthèses.
Et c'était quoi un peu le regard qui était porté sur toi pendant ta grossesse?
Déjà, le choix de ton père, disons, c'était pas un choix ordinaire.
Pourquoi? Tu peux préciser? Parce que les gens...
De couleur, hein, donc par exemple pour la Charente, ma ville d'origine, c'est pas si simple, mais ça m'a jamais posé aucun problème, puisque moi, à partir du moment où c'est décidé, je veux dire, le regard des autres, ça compte. Les regards qui comptent, c'est les gens qui te sont très chers, en fait. Mmh. Il faut pas oublier que j'avais vécu avec ton père pendant 7-8 ans, et que même si je vivais dans une grande ville, j'avais fait abstraction d'un certain nombre de regards.
Hein. Et les infirmières, les sages-femmes, les médecins, tout ça?
Je disais que j'étais célibataire et que j'allais avoir un enfant. Mmh. De toute façon, c'est marqué dans ton dossier de sécurité sociale, compagnie et tout. Hein.
Mais en 86, c'est pas complètement commun.
C'était très facile.
Ouais. Ouais. Et comment, c'était quoi le regard des gens de la famille?
Étant donné que, pour moi, comme ils considèrent, et c'est relativement vrai, que je suis très déterminée, quand je disais quelque chose, c'était oui.
T'as pas eu à affronter de...
Quand j'ai présenté ton père à mon père, du jour au lendemain, il l'a présenté à ses voisins comme étant son gendre.
D'accord.
Mettre un enfant au monde, c'est quelque chose de qui t'engage, toi. Enfin, le père et la mère, ça les engage beaucoup plus que ce qu'on... Je trouve la majeure partie des gens en ont conscience. Donc à partir de là, je trouve que c'est une décision très importante dans une vie de parce que tu non seulement tu cet enfant que tu veux mettre au monde, tu n'as pas décidé de venir au monde, donc c'est toi qui t'engages pour toi et pour lui, mais en gros tu perds quand même une certaine liberté sur ta propre vie dans la mesure où tu es engagé pour celle de l'autre. Alors moi je trouve que si c'est choisi, c'est ça veut dire que c'est réfléchi. Enfin, derrière un choix, avant un choix, il y a une réflexion. Donc à partir de là, ça me que ce soit un couple de femmes, un couple d'hommes ou une femme seule, maintenant comme ça va être permis d'avoir des enfants, ça me gêne pas. Par contre, quand c'est le fruit du hasard, hein, quand c'est des gens qui sont un peu comment dire, bousculés par la vie, là ça me fait peur pour les enfants. Mmh. C'est quand même, je sais pas comment t'expliquer ça. Ça c'est un enfant, ça s'inscrit quand même dans une histoire quand il. Et pour moi, la famille traditionnelle est quand même. Quand je dis traditionnelle, c'est pas simplement une père ou une mère ou tout ça. Mais je veux dire qu'ils connaissent un peu ses parents, s'il n'est pas été adopté, si. Je pense que c'est comme un arbre sans racine, autrement, il y a quelque chose qui manque. Mmh. Après, ça peut pas être une famille classique, mais il faut quand même qu'il y ait un récit autour de cet enfant.
Un quoi, un récit?
Oui.
Et toi, t'as des regrets ou pas?
Alors, des regrets de quoi?
Bah, t'aurais fait différemment si t'avais été à refaire.
Quand j'ai décidé, quand même, faut pas se leurrer. C'est chaque jour où tu te dis qu'il faut que tu y arrives, quand même. Hein, même si j'ai géré professionnellement une bonne carrière professionnelle que j'ai aimée, que je t'ai fait passer en priorité, il y a quand même, faut quand même se lever le matin comme si tu mettais la grande boxe en disant j'y vais. Parce que c'est pas si simple que ça non plus. Faut pas sous-estimer la difficulté. Mais maintenant que c'est fait, enfin, disons, dès que t'as attrapé aux alentours de 20 ans, j'ai regretté, mon regret, c'est de pas en avoir eu deux.
Merde.
Quoi?
Je crois que la capote s'est déchirée.
Oh merde. Bon, demain je passe à la pharmacie.
Brasero famille.
Pour toi, c'est quoi la famille?
Comment est-ce que tu fais famille, ou pas?
Est-ce que pour toi, la famille, c'est lié au fait d'avoir des enfants?
6 personnes.
3 micros.
74 minutes d'enregistrement.
Enfermées jusqu'à 50 minutes dans 15 mètres carrés.
Des histoires singulières.
Des parcours atypiques.
Des réponses complexes.
Oui, bon, ça va, c'est l'équipe de Brasero en mode introspection.
Bah moi je pense que je fais famille en essayant de répondre à, en partie en essayant de répondre à une espèce d'attente que je sens de ma famille qui plutôt en ce moment va se résumer par montrer une présence et montrer l'amour que j'ai envers ces personnes parce qu'ils me le montrent aussi. Du coup, j'ai l'impression qu'en ce moment c'est plutôt là-dessus que j'essaie de faire famille.
Il y avait le fait de faire des enfants. Pour moi, construire une famille, c'était beaucoup ça. Et de fait, on s'est rencontrés avec ce désir d'enfant. Et que l'histoire d'amour, elle est née après, en quelque sorte. Et qu'on s'est dit, on va faire une famille. En marquant bien la différence avec faire couple, par exemple. Et qu'il n'y ait pas qu'une histoire de non-exclusivité sexuelle, qui est aussi une manière de dire, on a des choix... On va pas toujours faire ensemble, mais néanmoins, l'envie qu'on a pour l'instant, c'est de rester une famille, avec cette image d'être qu'il y a un lien qui est là et qui est suffisamment fort pour justement résister à des distances, à des choix qu'on va faire ensemble ou pas ensemble, etc. Et l'envie tous les deux qu'on avait de faire une famille ouverte et qui soit pas du coup où on puisse accueillir d'autres gens dans cette famille là.
Je me suis retrouvé à fabriquer un truc avec une autre personne qui avait un enfant, puis qui en a eu deux. Et on a plus ou moins partagé quand même, plutôt plus que moins, l'éducation des gosses, quoi, ou d'être présent avec les gosses. Mais un peu dans le flou, quoi. Pas un truc hyper clair, même si à un moment, on se l'est proposé très clairement de se filer la main. Et du coup, là-dessus, on a reconstruit un truc. Je sais pas si on l'a nommé famille, mais... Je crois aujourd'hui beaucoup plus, et c'est un truc qui est plus dans l'immédiateté de l'intensité des liens, mais au contraire dans la temporalité et la capacité de pas se voir et savoir qu'on est là. Le truc de, à un moment, on sait que de toute façon, des gens ils appellent, tu bouges, tu te déplaces, quoi.
Moi, dans ma manière de faire famille, il y a faire des rituels et se créer des rituels. Pas forcément Noël ou je sais pas quoi, mais il y a toute une aventure de se dire il y a le rituel de machin, de ceci, de cela, voilà. Et ça crée des repères et ça invente une forme de rituel de famille. Et qu'en fait, en creusant un peu qu'est-ce que je voulais, et notamment quand j'ai rencontré le père de ma fille, quand on s'est dit pourquoi on veut un enfant, avec qui, comment, etc., en creusant ce truc-là, là, j'ai réussi à formuler qu'en fait, je voulais pas juste un bébé ou je voulais pas une relation amoureuse. Je voulais quelqu'un qui ait envie de faire une famille avec moi, quelle qu'en soit la forme, mais en tout cas de construire un truc et une famille dans le sens, je pense, avec cette idée de long terme et cette idée d'être au moins deux à être impliqués dans cette famille.
J'ai l'impression que c'est des liens... qui sont autres que les liens que je peux tisser avec des amis ou des gens avec qui j'habite et tout ça, mais qui ont une particularité, mais comme les personnes avec qui j'habite ont un lien particulier avec moi par rapport à des personnes avec qui je travaille, par rapport à ce genre de choses. Je trouve que chaque lien est assez singulier, quoi.
J'ai l'impression qu'on parle souvent d'une espèce de facilité à rester tous les trois, ou une facilité à se dire c'est nous la famille, et voilà, et ce serait le plus simple, mais comme c'est pas ça qu'on s'est proposé, c'est pas ça qu'on a envie, et ben dans nos discussions, dans nos projets, à chaque fois on remet cette idée de mais comment on fait pour laisser de la place à d'autres personnes, à d'autres envies, à d'autres projets, etc. Je pense que c'est pas toujours évident, mais comme je pense que c'est pas toujours évident d'être une famille à trois et que ça vienne, donc pour moi c'est un pari autant que...
Pour toi, est-ce que faire famille, c'est lié au fait d'avoir des enfants ?
Non. Bah, non, non. Moi, j'ai l'impression... En fait, pour moi, le mot famille a un côté assez renfermant. Et du coup, je crois que j'arrive pas trop à me le figurer de manière positive. Mais du coup, pour moi, il y a des personnes qui font famille parce que, je sais pas, elles tissent des liens qui sont pas exclusifs, mais un truc de... au sein de ce groupe, il y a des liens qui sont plus forts que tous les autres autour, tu vois. Et j'ai l'impression que ça pourrait être une définition de la famille. Mais pour moi, c'est pas très positif.
C'était un rôle familial. Enfin, tu vois, j'avais envie d'être maman, j'ai envie d'avoir des gens avec qui je vis. Alors, je vis pas que avec des gens de ma famille, mais il y a aussi ce truc de construire un foyer avec des gens avec qui, là, on a un projet de s'installer à nombreux, nombreuses. Il y a un peu cette envie, cet idéal que de me dire, bon, bah, on va rester des années ensemble, ma fille va grandir avec eux et elle, et ce sera sa famille. Mmh. Et s'il y a d'autres enfants qui arrivent, ce sera ma famille aussi. Donc voilà,
du coup, je vais accoucher bientôt. Et je ne me suis pas dit que j'étais en train de faire une famille. Enfin, le fait d'avoir ce bébé, pour moi... je ne l'ai pas du tout associé avec... Je l'ai associé plutôt à comment je l'intègre à mes familles, ce bébé. C'est-à-dire moi, du coup, je suis toute seule au départ. En tout cas, je serai la seule responsable légale de cet enfant pour l'instant à sa naissance. Et ce désir, il vient de moi uniquement au départ. Mais du coup, c'est vrai que dans les premières discussions, quand j'ai... Puisque, moi, j'ai vraiment détaché. Moi, je n'arrivais pas du tout à mettre ensemble une histoire d'amour. Et le fait d'avoir un enfant, je trouvais que ça marchait pas du tout dans ma vie. Enfin, je me disais, mais j'y arriverai pas parce que ça, c'est pas des trucs qui vont ensemble, quoi. Et du coup, j'ai plus fait le chemin de... quand j'ai su que je me sentais cap et que j'avais envie de voir qu'est-ce que ça donnait dans mes familles, là, justement. Le premier truc que j'ai fait, quand ça m'est monté il y a 2 ans... de me dire, mais je sais qu'en fait, je vais faire un môme, là. Enfin, en tout cas, je vais essayer. C'est justement, je suis allée voir, je pense, pendant 3-4 mois, je suis allée voir les gens que j'aime et les gens qui sont ma famille ou qui sont très proches de moi pour voir qui s'embarquait là-dedans avec moi.
Le seul truc que je me suis dit, là, une nuit, vers 4 heures du matin...
Réveillée par l'enfant
qui a 5 mois... je me suis dit, au matin, quand on était là, elle est vraiment super, tout ça, je me disais, c'est bien le seul être au monde, je pense, qui peut me réveiller en pleine nuit, me faire chier et me faire des grands sourires le matin, et que je me dise, c'est cool, tout va bien. Enfin, je pense qu'il y a peu de personnes avec qui tu as des liens assez forts, pour pouvoir te dire, putain, elle m'a fait chier pendant 2 heures cette nuit. Mais, comme elle est super.
Pour moi, c'est pas pareil, en fait. Moi, j'ai pas d'enfant, du coup, c'est... j'ai l'impression que autour de moi, les potes qui construisent une famille, ils construisent une espèce de petit lien, soit en coloc, soit... Mais en tout cas, ça se tourne autour de leur enfant, et de la personne ou pas, s'ils sont seuls. Et en tout cas, ça fonctionne autour de ça. Mais après, il y a la famille, des parents, des... Mais c'est deux choses un peu différentes. J'ai l'impression qu'il y a la famille que tu décides. Là, cette famille-là, tu essaies de la maintenir et l'autre, tu essaies de la construire.
Ce truc de, en espagnol, tener familia, veut dire accoucher. Moi, c'est pour ça que pour moi, les enfants, ça a été central dans mon histoire. C'est le lien qui s'est forgé autour des gosses, ça fabrique un truc qui est. Tu sais, c'est ces expériences que tu fais qu'une fois aussi, parce que quand des gosses ils sont petits et que tu les vois grandir et que machin, etc., et que tu formes une espèce de solidarité autour de ça, de cette prise en charge, d'être là, de t'inquiéter, de te lever la nuit, d'avoir peur, d'avoir un attachement qui va au-delà des qualités des personnes, etc., une fois que t'as fait tout ça, et ben tu c'est ineffaçable, quoi. Genre, aujourd'hui, je peux dire, tiens, je fais famille,
Alors que à un moment, j'ai vraiment, pour moi, c'était hors de question de poser ces trucs-là, de plaquer ces trucs-là sur des relations amicales, parce que je trouvais ça faux, je trouvais ça machin. Et là, pour moi, ça renvoie à quelque chose de solide, quoi, et positif.
Et depuis 6 ans que je suis parent, c'est quand même le modèle qui m'interroge, quoi. Du fait que je suis à une autre place, d'avoir un enfant. Et moi, je sais pas, en fait. Enfin, le faire famille avec, par exemple, avec ma gosse, c'est pas très clair, quoi. Alors que pour elle, par exemple, par le modèle dans lequel elle a vécu, et puis l'école, et je pense les normes autour, pour elle, ça a l'air vachement plus clair, quoi.
Parce que j'ai l'impression que, comme on en parle, là, ça engendre des sortes de responsabilités et des quasi des devoirs, entre guillemets, de comme tu dis, tu vois, de devoir créer du lien, de devoir des choses que tu fais pas forcément avec tes potes immédiats parce que c'est très simple, mais qui peut s'évanouir. Et par contre, avec les gens qu'on considère de notre famille, il faut quand même faire cet effort d'aller chercher, de réfléchir, de trouver un système pour que ça reste quand même une unité.
Aussi, du coup, tu as des responsabilités. La famille, c'est aussi des responsabilités. C'est aussi faire gaffe aux gens, c'est aussi un enfant qui débarque. Ça veut dire que si aussi l'enfant, il a des relations fortes avec des gens, c'est quoi ta responsabilité de pas te barrer du jour au lendemain, de pas briser des liens, de pas... Enfin, tu vois. Après, moi, je comprends ce que tu dis. Par exemple, ça me fait du sens. Moi, je trouve qu'avoir un enfant, en tout cas avec quelqu'un au départ, parce qu'après, il y a les choses qui se fabriquent, il y a les choses qui, tu vois, mais qu'avec quelqu'un que tu as choisi, que ça soit ton amoureux, ton amoureuse, ton ami, c'est une des formes d'engagement les plus fortes. C'est-à-dire c'est une personne avec qui tu vas dealer toute ta vie des trucs, quoi.
Histoire de responsabilité, de temps, de durée. Et pour moi, c'est des engagements réciproques, c'est des trucs dans lesquels t'es pris. Et je sais pas si je pensais ça, j'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est clair que être engagé dans quelque chose qui me contraint, pour moi, c'est un truc positif. Et pour moi, c'est pas un truc, genre, en général, il faut respecter la famille, tu vois, je m'en fous de tout ça. Mais c'est à un moment, quand tu prends des engagements, tu t'y tiens, et je trouve que c'est des trucs qui nous rendent meilleurs, quoi, en fait. Ouais. Parce qu'on est là, parce que, ouais, effectivement, regarder des gens au-delà de ce qu'ils et elles font, pouvoir être là pour eux et elles, inconditionnellement, entre guillemets, bon, voilà, c'est...
D'avoir fait le choix de faire un enfant en mode fabrication artisanale, d'avoir rencontré un donneur avec qui on s'est mis d'accord sur les choses, d'être seul, ça c'est moi qui le choisis, tu vois. Est-ce que ce qui va lui être envoyé et tout ça, on va dire par la norme, par la société, par, tu vois. Moi, je dois dealer avec, mais moi, j'ai choisi de dealer avec. Et j'espère que cet enfant qui va naître, il va apprécier cette manière de faire famille et cette histoire. Parce que c'est moi qui choisis aussi son histoire vis-à-vis de c'est quoi une famille. Peut-être que cet enfant... Son rapport à la famille ou ce qu'il aura envie d'être, que ça soit une famille, ça sera pas ça, tu vois. Du coup, c'est ça aussi que tu prends comme décision pour quelqu'un d'autre.
Bon, il est bientôt 16h, on va peut-être passer au fromage.
Brasero bébé 2, faire famille.
Et pendant qu'on discutait Brasero bébé, Brasero famille, vautré dans les canapés à Canal Sud, 577 députés, dont 224 étaient des femmes, discutaient de la possibilité d'avoir accès à la médecine pour pouvoir procréer. Et oui, jusqu'à maintenant, il fallait être une femme et être en couple hétérosexuel pour avoir le droit et les aides qui y sont associées, être remboursé par la Sécu, quoi. On parle de loi pour la PMA, procréation médicalement assistée pour toutes. Au final, 359 ont voté un texte qui va dans ce sens. Beaucoup ont crié « Victoire !» puisqu'il ne serait plus nécessaire d'être en couple ou d'être hétérosexuel pour pouvoir en bénéficier. D'autres ont pointé les limites du texte. Effectivement, celui-ci ne facilite pas l'accès à la parentalité pour les personnes trans, ni sur le plan de l'autoconservation des gamètes, ni de la PMA pour les hommes trans. Des personnes qui, bien qu'ayant un utérus, sont des hommes. La question de la filiation, de la reconnaissance de la parentalité, n'est pas très satisfaisante non plus. Cette question est un autre enjeu du texte. Il s'agit de permettre de régulariser un certain nombre de cas de bébés issus de procréation médicalement assistée ou de gestation pour autrui à l'étranger, tant que c'était interdit en France. Pour l'instant, et en attendant que les 348 sénateurs, dont 29% sont des sénatrices, se penchent sur le texte et le tripatouillent encore, voilà où on en est. Toutes les femmes dont le genre correspond au sexe biologique, en couple ou non, ont le droit d'avoir recours à la procréation médicalement assistée et de bénéficier de l'aide de la sécurité sociale pour cela. C'est pas mal. Il y a un autre oubli de la loi et qui est important, c'était une loi de bioéthique générale, c'est-à-dire que ça s'intéressait à tout un tas d'autres cas. Et il y a les personnes intersexes qui sont très en colère. Et il y a de quoi ? La discussion de cette loi était l'occasion d'interdire les mutilations qui sont pratiquées sur leur corps dès la naissance et ensuite pour les faire correspondre aux caractéristiques du sexe masculin ou féminin selon le choix de la médecine, ou etc. Et malheureusement, cela n'a pas été fait. Bon, de toute façon, tant que les pouvoirs étatiques et médicaux auront la main mise, on ne sera pas sorti d'affaire.
Giuseppe, j'ai appris que le petit Niccolo avait fait du mal à la famille. Tu vas me retrouver ce Minus et tu vas lui faire comprendre qu'on ne touche pas comme ça à la famille. Demain, tu reviens me voir et tu me dis que c'est de l'histoire ancienne.
Ouais, je te le dis, heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les frangines et les frangins, y'a chouetti. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les cousines et les cousins, ouais, je te le dis. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les frangines et les frangins, y'a ourti. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les cousines et les cousins. Heureusement qu'à la famille, la tribu, la fratrie, la bouffe et l'oxygène, le petit coin de paradis, le refuge, la tanière, le bombière, l'amour, les bons conseils, le couscous de ma mère. Pas touche à la famille, sinon c'est Hemi. Le clan est mon camp, cimenté, Yerkweti, invendable. Étanche, inaltérable, loyauté, bétonnée aux convictions non négociables, inébranlables. Comme la lutte palestinienne, immuable. Comme le nif à l'algérienne, je sais qui sont les miens, parce que je sais d'où je viens, c'est la race de mutins. Les chats font pas des chiens. Ouais, je te le dis, heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les frangines et les frangins, y'a chouetti. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les cousines et les cousins, ouais, je te le dis. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les frangines et les frangins, y'a ourti. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les cousines et les cousins. Ma seule solution, pour pas péter les plombs, toujours rester en phase avec les traditions quotidiennement. Se ressourcer chez les darons, faire le plein de carburant, recharger les munitions. Quand tu traînes à la maison, t'as vu ces bonnards, tes bébères, relax, en claquette ou en peignoir. C'est sûr que dans le salon, tu croises un pinceau de connard. À l'horizon, pas un flic, une paire bourgeois radar. Fais tard, tes ailes, t'évacues la tension, exit le stress, les violences de l'oppression. La famille, mon secteur, mon territoire, mon passion. Que de la bonne vibration. Ouais, je te le dis. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les frangines et les frangins, y'a chouetti. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les cousines et les cousins, ouais, je te le dis. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les frangines et les frangins, y'a ourti. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les cousines et les cousins. La baby, si tu penses être à la hauteur, la porte est grande ouverte, à n'importe quelle heure, mais un duck. Pas bien ton avocat, dis-lui de bien relire toutes les clauses du contrat. Dis-lui que chez nous, on s'embrouille pour des broutilles, on s'énerve, on s'engueule, on se réconcilie, mais lâche l'affaire. Si t'as besoin de silence, chez nous, elle est belle, tu vas savoir c'est quoi l'ambiance. Faire les courses pour la daronne, réparer la parabole, refaire la tapisserie, essuyer les casseroles, conduire les petits frères jusqu'à la porte de l'école, avec le sourire, sinon c'est la tarniole. Ouais, je te le dis, heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les frangines et les frangins, y'a chouetti. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les cousines et les cousins, ouais, je te le dis. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les frangines et les frangins, y'a ourti. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les cousines et les cousins, ouais, je te le dis. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les frangines et les frangins, y'a chouetti. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les cousines et les cousins, ouais, je te le dis. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les frangines et les frangins, y'a ourti. Heureusement qu'à la famille, heureusement qu'ils sont là, les cousines et les cousins.
Et voilà, Brasero, bébé, c'est fini. Et normalement, pendant un temps, on ne devrait plus spécialement parler de bébé, hein.
Non, on va faire une petite pause, ouais.
Ouais.
Grosse petite pause bébé.
Oh, on y reviendra peut-être, mais pas tout de suite. Et on va faire un coucou aux cousins et aux cousines qui sont pas là, et notamment à Manel, le nouveau bébé de Brasero.
Manel et Marie, et spéciale dédicace. Chico aussi qui est pas là, et puis Ludo qui reviendra peut-être un jour.
Et Eliana qui sera toujours dans nos cœurs,
voilà.
Même si elle est en Suisse, ce que voilà, on n'y peut rien.
On n'y peut rien. Moi, je voulais faire une petite dédicace à mes cousines aussi.
Et une dernière dédicace, moi, parce que la famille, c'est aussi les gens qui partent toujours trop vite. Et voilà, un dernier mot, un dernier salut pour Jaco, qui nous a quittés ce week-end. Pour toujours et à jamais. Et on n'oubliera pas tes patates en sauce et ton regard caustique sur ce monde de merde. Ciao, Jaco.